rendez-vous culture des bibliothèques de Compiègne.
Bonjour à tous, nous sommes ravis de vous retrouver en cette rentrée pour vous présenter les œuvres qui nous ont marqués cet été et que nous avons envie de vous recommander. Et pour ce faire, j'ai la chance aujourd'hui d'être accompagnée d'Aurore, d'Amy, d'Antoine et du meilleur libraire de Compiègne, Lionel. Il va être question aujourd'hui du très beau jeu Cascadia, mais aussi de romans avec Le restaurant de l'amour retrouvé, d'Ito Ogawa, de Maître et l'assassin de Sophie Bonnet, Un homme sans histoire de Nicolas Caro, de L'île haute de Valentine Gobi, du principe de réalité ouzbek, aussi de Qui se souviendra de Philly Joe de Marcus Malt et de Fantaisie guerrière. Nous parlerons aussi d'un manga, Spy Family, et d'un essai original, Agir et penser comme Dark Vador. Et s'il nous reste un peu de temps en fin d'émission, on parlera aussi d'un film, Trois fois rien, de Nadège Loiseau. Mais tout de suite, on va commencer avec un jeu, grâce à Antoine.
Merci Anne. Alors, effectivement, je vais vous parler de Cascadia. Cascadia, c'est un jeu que j'ai découvert, comme souvent, lors d'une soirée-jeu du mardi soir, organisée par l'association Jouons à Compiègne à la bibliothèque Bellicard. Et c'est un ami de Marnie qui me l'a fait découvrir. Quand je dis qu'il me l'a fait découvrir, ça veut dire qu'il m'a expliqué les règles. Vous savez que quand on fait des jeux de société, c'est très précieux d'avoir quelqu'un qui sait expliquer les règles. Et là, c'est un jeu qui est assez simple à jouer. On peut y jouer à partir de 10 ans. Et il a gagné cette année le Spiel des Jahres. Le Spiel des Jahres, ça veut dire le jeu de l'année en allemand. Et en fait, c'est le nom, vous connaissez peut-être, du plus prestigieux prix allemand pour les jeux de société. Et comme l'Allemagne est un très grand pays de jeux de société, ben, c'est un des prix les plus prestigieux au monde. L'univers du jeu, c'est la chaîne montagneuse des Cascades. Les Cascades, c'est au nord-ouest de l'Amérique du Nord. Ça va de l'Idaho à la Colombie-Britannique. Et c'est un jeu qui permet de réfléchir à l'équilibre entre les animaux et leurs différents environnements. Si vous voulez, c'est un peu, pour ceux qui connaissent, c'est un peu comme Wingspan, qui est un jeu dont on avait beaucoup parlé il y a quelques années sur l'univers des oiseaux, et des oiseaux d'Amérique du Nord, des oiseaux d'Europe, il y a eu plusieurs versions. Et donc c'est un peu le même principe esthétique, c'est un graphisme qui est assez classique, mais très très beau, très doux. Et donc le principe du jeu, c'est que vous avez 5 habitats, la montagne, la forêt, la prairie, le marais et le fleuve, et 5 animaux. Les ours, les renards, les wapitis, les buses et les saumons. Vous voyez, là, jusque-là, ça a l'air d'être un peu un jeu pour les enfants. On peut y jouer à partir de 10 ans, donc ça va pour les adolescents, disons, mais c'est plus complexe que ça, puisque chaque animal vous fait gagner des points d'une manière différente. C'est-à-dire qu'en fait, ils n'habitent pas leurs environnements de la même façon, et du coup, ils ne rapportent pas des points de la même manière. Et donc, tout le jeu, ça va être de réfléchir sur plusieurs logiques en même temps, de croiser vraiment des logiques quand on pose ses tuiles sur le plateau, pour faire qu'à la fin, bah, on ait le plus de points de victoire et qu'on gagne la partie et qu'on écrase les autres. Parce que oui, il s'agit quand même d'un jeu, et il s'agit de gagner, en étant fair-play, mais de gagner. En gros, il faut 10-15 minutes pour apprendre les règles, une heure pour la première partie, disons, et puis ensuite, ça prend 30-40 minutes par partie. C'est un jeu très agréable, je vous dis, un peu comme Wingspan, peut-être un peu plus simple, plus rapide à jouer, et c'est en général ce genre de jeu que le Spiel des Jahres récompense, et je vous le recommande très vivement. Et après vous l'avoir recommandé, je passe la parole à Amy, qui va nous parler d'Ito Ogawa.
Merci Antoine. Donc effectivement, je vais vous faire voyager au Japon. Donc avec le roman Shokudo Katatsumori, ou en français Le restaurant de l'amour retrouvé, qui est le premier roman d'Ito Ogawa. Alors ce roman, il a connu un grand succès dans son pays d'origine et a d'ailleurs été adapté au cinéma en 2010. Et mieux qu'un médicament et bien loin des romans à l'eau de rose, comme pourrait nous le laisser suggérer le titre, ce roman nous entraîne délicatement dans l'univers de la cuisine, des émotions, de la poésie au travers des transmissions familiales. Et c'est en effet l'histoire d'une jeune femme japonaise, Rinko, vivant auprès de son compagnon. Alors un soir, elle rentre chez elle, elle ouvre la porte, et là, plus rien. Il n'y a plus rien, plus aucun meuble, ni compagnon, juste la clé de l'appartement sur la table et une jatte. Jatte très importante, puisqu'elle contient une saumure exceptionnelle, transmise de génération en génération, dans sa famille et qui aurait, semble-t-il, son importance tout au long du récit. Et sous le choc de cette sordide rupture et au décès de sa grand-mère qui lui a transmis le goût et la passion pour la cuisine, Rinko perd sa voix, incapable désormais de prononcer le moindre mot. Elle décide alors de se réfugier dans son village natal, chez sa mère, où elle ouvre son restaurant, surnommé l'Escargot, accompagnée d'amis qu'elle a perdus de vue. Alors ce n'est pas un restaurant comme les autres, puisqu'on y propose une cuisine réparatrice, concoctée comme un remède, aux soucis rencontrés par le client qui goûte ses plats. Alors très vite, les villageois se bousculent pour s'asseoir à l'unique table du restaurant, où, paraît-il, on peut trouver l'amour, résoudre ses problèmes et réaliser ses vœux. Son seul moyen de communication, mis à part la cuisine, se résume à de petites fiches afin d'entrer en relation avec son entourage. Tout au long de l'intrigue, elle découvre également tous les secrets de famille qu'elle va tenter peu à peu de percer et qui vont l'amener, ou non, à retrouver sa voie, car je vous le laisse bien évidemment le deviner par vous-même à la lecture de ce roman. Et si je devais, en quelques mots, vous résumer ce que je pense effectivement de ce roman, c'est que c'est un livre apaisant, réconfortant, comme un bon petit plat. Alors je vous laisse le savourer.
Le rendez-vous culture des bibliothèques de Compiègne.
Alors bonjour, je vais vous présenter quatre ouvrages de la rentrée littéraire. Alors ouvrages totalement différents les uns des autres, mais de très très grande qualité. Pour commencer, L'île haute de Valentine Gobi chez Actes Sud. Alors c'est l'histoire d'un jeune garçon juif de 12 ans qui est exfiltré de Paris pendant la Seconde Guerre mondiale. En fait, le roman commence dans la neige, la nuit, au milieu des montagnes. En fait, ce jeune garçon ne voit absolument rien. Le roman va raconter sa découverte émerveillée de paysages totalement inconnus pour lui. C'est sa découverte des sommets, des plantes et d'un monde certes rude, mais plein d'humanité. Alors, dès le début, Valentine Gobi, elle nous capte, elle nous emporte dans un maelstrom d'émotions. C'est juste absolument superbe. Ce qu'elle fait, en fait, c'est qu'elle extrait son jeune héros du chaos des hommes pour l'emmener dans le fracas des montagnes, dans une puissance émotionnelle sans pareil. Son style, c'est un style très fluide, une écriture minérale qui se fait torrent, cascade et qui nous emporte pour être grandiloquent au soleil de la littérature. C'est un magnifique roman. En plus, si on aime la montagne, c'est le paradis. Moi, j'adore. Le second ouvrage, c'est Le principe de réalité ouzbek de Tiffen Le Gall à la manufacture de livres. Pardon. C'est un roman épistolaire. Alors, ça peut faire peur, un roman épistolaire, mais là, c'est pas la peine parce que le début commence de façon très, très drôle. L'autrice de la lettre, en fait, écrit en réaction à un refus de l'accepter un poste de professeur de français en Ouzbékistan. C'est un pays sans mer, un peu un trou noir géographique. Alors, faut bien le dire, ça ressemble presque à une blague, à une provocation. Mais en fait, ça va être l'expression d'un désir assez singulier, pour nous au départ totalement flou. Alors en fait, on va aller de digression en digression, on va passer de réflexion sur la vie de couple, sur la vie tout court. Et en fait, on va être confronté à ce que Tiffen appelle ces immensités d'ombre que constitue la majeure partie du réel. Alors dit comme ça, ça peut paraître un peu plombant. Mais en fait, c'est tout le contraire, c'est léger, subtil, c'est d'une grande justesse psychologique. Et en fait, elle cherche à capter une certaine intensité de la vie. Moi, j'ai trouvé ça beau, désespéré parfois, à la vie, un peu comme ça. Et c'est magnifique, c'est une vraie réussite. Ça s'appelle Le principe de réalité ouzbek. Beaucoup plus touffu, plus ample, c'est un pavé, faut le dire. Qui se souviendra de Philippe Joe, de Marcus Malt, dont vous pouvez encore lire le précédent roman qui s'appelait R, qui est un roman extraordinaire, chez Zulma, en couverture toujours aussi sublime. Alors, ça démarre en fait avec l'assassinat supposé d'un génial inventeur. Après, il a inventé une machine révolutionnaire dite à énergie libre. Qui normalement est censé transformer radicalement le monde. Alors, le problème, c'est qu'il faudra encore trouver cette machine. On ne sait pas où elle est. C'est le point de départ. Marcus Malt nous livre en fait un roman passionnant, surprenant, d'une grande inventivité. En fait, ça parle du vrai, du faux, de manipulation, de conspirationnisme. C'est fait d'une façon remarquable. En fait, c'est une espèce de machine folle, une machine infernale avec des engrenages qui seraient un peu vacillants. Et le tour de force de Marcus Malt, c'est de parvenir à nous faire douter de ce qu'on en pense. C'est vertigineux, un peu flippant dans le fond. C'est un grand roman malin, machiavélique. Donc, qui se souviendra de Philippe Joe? Bon, on verra. Et pour finir, une petite sucrerie qui s'appelle Fantaisie guerrière de Guillaume Lebrun chez Bourgois. On aime beaucoup cet éditeur. C'est un ovni. C'est super drôle pour ceux qui se souviennent des Monty Python. L'absurde, le décalage, la folie. Eh bien, on est chez Monty Python. En deux mots, une phrase, à peu près. On est au 15e siècle, et une duchesse va sélectionner 15 jeunes filles afin de garder une Jeanne pour faire la guerre. Mon résumé est vraiment succinct. C'est un peu un Star Academy à l'ancienne, si on veut. L'expression pas de moi. C'est une langue de faux français, de faux ancien français, pardon, avec une moderne, jouissive. C'est totalement déjanté, on se marre, on est content. Et je cite, du genre à faire mourir d'apoplexie un troupeau de carmélites. C'est un peu une philosophie de vie, peut-être, je ne sais pas. Voilà, c'est juste un petit florilège de la rentrée littéraire. Merci de m'avoir écouté et bonne lecture à tous.
Merci infiniment, Lionel, pour cette très belle sélection des romans de la rentrée. Avec cette profusion, c'est vrai que c'est difficile de choisir, donc là, c'est parfait. Et pour ma part, je vais vous présenter un livre, Le Maître et l'Assassin de Sophie Bonnet. C'est une histoire incroyable, limite invraisemblable, à tel point qu'on pourrait se dire que Sophie Bonnet a une sacrée imagination. Mais non, ce n'est pas une fiction. C'est une enquête de 5 années qu'elle nous retrace. Sophie Bonnet est journaliste d'investigation. Elle avait déjà impressionné avec son précédent ouvrage sur le terroriste Carlos dans « Salutations révolutionnaires ». Ici, elle consacre son reportage à Alexandre Despaillères. C'était un gigolo à la beauté irrésistible, dont même Elton John serait tombé amoureux. Mais aussi un escroc, un arnaqueur et un empoisonneur. C'est notamment le présumé assassin de Peter Hickin, le producteur de musique mort en 2008. Et comme la vie de Despaillères était intimement et secrètement liée à celle d'Olivier Messner, ils étaient amants, ce récit propose la biographie croisée des deux hommes. Olivier Messner était un grand avocat du barreau parisien, appelé le roi de la procédure, car c'était un as de la détection des vices de procédure et grand défenseur de puissants. Il a plaidé dans quelques-unes des affaires les plus importantes de ces dernières années, comme l'affaire Kerviel, Bettencourt, Bertrand Cantat ou Claire Struim. Ce pénaliste était très impliqué à la fois dans les affaires politiques et le grand banditisme, et lui-même, il menait une vie trouble. Il s'est suicidé dans son île bretonne privée en 2013. Sophie Bonnet s'appuie sur son enquête journalistique fouillée et documentée. Elle puise dans les comptes rendus d'entretien qu'elle a menés au début des années 2000 avec Alexandre Despaillères, ainsi que dans les coupures de presse. Elle a aussi beaucoup interviewé les personnes qui ont côtoyé les deux protagonistes. Elle a rencontré plus de 150 témoins. Mais à part quelques exceptions notoires comme Yves Mourouzi, Bertrand Delanoë ou Nicolas Sarkozy, le livre ne révèle aucun nom. Car elle a été confrontée à l'impossibilité de citer ses sources. Presque tous ont honte de s'être laissé berner et abuser par le si bel Alexandre. C'est le portrait croisé de ces deux personnages, des personnages aussi fascinants que repoussants, avec ces questions comme fil directeur. Et si finalement la mort de Messner n'était pas un suicide? Et si Despaillères était un tueur en série? L'intime conviction de Sophie Bonnet est que malgré l'absence de jugement, puisqu'Alexandre est mort en janvier et son procès était prévu en juin 2022, son protagoniste est bien un assassin qui a tué à de multiples reprises, notamment ses parents et ses grands-mères. Elle met en valeur l'habileté diabolique de l'escroc et son manque total de pitié. Ça bouscule et ça interroge sur l'âme humaine. Ce récit est tellement hallucinant qu'il se lit comme un véritable page-turner, un thriller haletant. Il nous laisse sans voix face à tant d'abominations. Mais si son contenu est ahurissant, sa construction n'en est pas moins captivante. Et un des aspects que j'ai trouvé remarquable, c'est dans sa façon de ponctuer son écriture de réflexion sur la rédaction du livre. La journaliste expose son enquête et elle se met elle-même en scène dans la narration. Elle devient de fait un personnage de son récit. On lit ainsi un roman sur une journaliste qui enquête sur un assassin et un avocat. D'autant plus qu'elle entretient vraiment un lien avec Alexandre et son dernier compagnon et elle a même craint à un moment d'en devenir une de ses victimes. C'est sidérant et vraiment une lecture édifiante et passionnante. Il est temps de faire une petite pause musicale. Nous avons choisi le prodige du reggae français, Naman. Il a sorti cette année son dernier album, Temple Road, un album magnifique que nous avons à la bibliothèque Montrichon, et où il transcende les genres entre soul, reggae et hip-hop. Le titre Crazy, que l'on va écouter, est en collaboration avec le groupe Dub Incorporation. Il propage une vibration contagieuse, énergique et festive.
J'entends dire que la révolution est proche. On se détache seulement de nos illusions. J'entends aussi que de Big Naman vont pousser des forces pour passer des idées de l'amour et du son. Reprenons notre élan et repoussons nos déviances. Nous occupons ce monde avec des hymnes et des promesses. Vivons le maintenant, soyons soudés autrement. Réfléchir ensemble, c'est mettre un terme à nos faiblesses.
Rebonjour pour ce rendez-vous culture des bibliothèques de Compiègne. On va parler de manga maintenant avec Spy Family. Spy Family, c'est un manga qu'on a à Saint-Corneille, c'est de Tatsuya Endo. Et c'est l'histoire d'une famille qui essaie d'inscrire son enfant dans une école prestigieuse. Bon, là, ça a l'air assez ennuyeux. Et en plus, c'est le schéma assez traditionnel dans les mangas, vous savez, d'un enfant qui va essayer de se dépasser pour remporter un concours, une épreuve sportive, rentrer dans une école. C'est quelque chose qui, à vrai dire, dans les mangas, a tendance à m'agacer d'habitude. Et là, non. Alors, pourquoi pas ? Parce que dans Spy Family, le père n'est en fait pas le père. C'est un espion qui est chargé d'infiltrer l'école pour enquêter sur un politicien extrémiste. La mère n'est en fait pas la mère. C'est une tueuse à gages qui avait besoin d'une couverture pour ne pas éveiller les soupçons de sa famille et de ses collègues. Et la petite fille est quand même une petite fille. Mais le père l'a recueillie dans un foyer pour les besoins de sa mission. Et cette petite fille, qui s'appelle Anya, elle a des dons de télépathie, elle lit dans les pensées de ses parents. Et du coup, comme elle comprend peu à peu ce qui se passe, et qu'elle interprète quand même avec son raisonnement d'enfant, c'est à la fois très intelligent, ça fait réfléchir, et c'est très drôle. C'est un manga qui est assez récent, qui a commencé en 2019. On a 9 volumes actuellement. J'ai pas encore fini, mais c'est assez haletant, c'est, disons, efficace comme un manga... Et en même temps, c'est, comme je l'ai dit, c'est drôle, c'est intelligent, ça fait réfléchir, on ne s'ennuie pas. Et je pense que ça marche à la fois pour des enfants ou disons des adolescents et des adultes. Ce n'est pas si évident de trouver des mangas, si vous voulez, qui plaisent à des adultes. Et donc Spy Family, pour moi, il recoupe un peu tous les avantages de toutes les catégories. Et maintenant, on passe à un tout autre domaine et on va parler de Dark Vador.
Tout à fait. Moi, j'ai envie de vous présenter le livre « Agir et penser comme Dark Vador ». Alors, c'est un livre, pour la petite anecdote, que j'ai retrouvé chez moi en faisant du tri. Et voilà, toutes mes excuses à la personne qui me l'a offert. J'ai absolument pas aucune idée de comment ce livre est apparu chez moi. Pourtant, avec un titre pareil, ce livre pourrait appeler à peu près n'importe quel fan de la saga Star Wars. Et justement, c'est mon cas. Donc c'est avec une joie inattendue que je l'ai redécouvert dans l'une de mes nombreuses pales. L'auteur de ce livre, Gwendal Fossoy, est spécialiste de la pop culture. C'est un domaine qui, moi, m'appelle particulièrement. Il a été journaliste, rédacteur en chef, éditeur, illustrateur. C'est donc un auteur qu'on peut qualifier d'assez complet et qui a en tout cas plus d'une corde à son arc. Son créneau, c'est proposer une relecture d'œuvres de culture de l'imaginaire sous des angles originaux pour en tirer des leçons de vie au travail et dans la vie privée. Ce livre, Agir et penser comme Dark Vador, n'est donc pas un roman, mais plutôt un livre didactique de développement personnel. En s'appuyant sur ce personnage mythique, Gwendal Fossoy met en exergue les qualités de ce maître du côté obscur. Dark Vador est souvent présenté comme l'expression ultime du mal, avec une personnalité de stratège, mystérieux, manipulateur et charismatique aussi. Mais Dark Vador n'a pas toujours été Dark Vador. Et dans son analyse, Gwendal Fossoy prend également en considération la personnalité d'Anakin Skywalker, le jeune homme avant l'avènement du maître Sith. Il utilise chaque facette de la personnalité de ce complexe personnage et nous donne des axes de méditation quant au rapport aux autres, que ce soit dans la vie personnelle ou professionnelle. Certains conseils sont, comment dire, honnêtement, un peu tirés par les cheveux, allez. Mais le point de vue défendu est toujours intéressant de par son originalité, son audace ou d'autres fois par la pertinence des exemples. Un livre qui nous ouvre une nouvelle perspective sur un personnage bien connu de la pop culture, qui se lit avec le sourire, qui fait plaisir par les extraits et les scènes mis en évidence qui raviront tous les fans, et qui quand même touche au but en faisant de Dark Vador un coach de vie. Le temps d'une lecture, laissez-vous séduire par le côté obscur de la force.
Merci Aurore. On va passer à un tout autre univers avec un homme sans histoire. Alors, c'est de Nicolas Carreau. Il est journaliste et chroniqueur de l'émission La Voix est libre sur Europe 1. Nicolas Carreau passe ainsi en beauté, je trouve, d'intervieweur littéraire à hauteur avec ce premier roman réjouissant. Son titre, Un homme sans histoire, porte déjà toute l'ironie de l'histoire racontée. C'est une histoire déjantée et drôle, un vrai voyage, une échappée belle. J'ai savouré le récit de la vie d'Henri Rey, un anti-héros sympathique qui aime sa tranquillité, sa routine, avec une vie parfaitement cadrée et surtout sans surprise. J'adore d'ailleurs la formule qu'emploie l'auteur, disant que son héros aime s'ennuyer pour éviter les ennuis. Expert comptable dans une petite entreprise de province, ses journées se suivent un programme très précis. À la minute près, il répète chaque jour les mêmes gestes, jusqu'à la bise chaque matin sur la joue gauche de son épouse. Une vie banale donc, jusqu'au jour où deux boutons de manchette dépareillés disparaissent. C'était un trésor sentimental, un cadeau, héritage de son grand-père. Et à partir de là, tout va partir en cacahuète, partir à volo. C'est le genre d'aventure à suivre sans réfléchir et en s'amusant de surprises et des rebondissements. Il raconte des aventures trépidantes et souvent loufoques. C'est une cavale abracadabrantesque. Elle nous embarque à Munich, à Ostende, à New York, puis en Argentine, sur les traces d'un homme en lien avec les fameux boutons de manchette. Et de rebondissements en péripéties, la fuite d'Henri l'amène à des rencontres improbables et offre au lecteur un florilège de personnes extravagants, comme cet aventurier Harold qui a choisi une façon très originale de traverser l'Atlantique. Amateur de réalisme et de situations sérieuses, passez votre chemin quand même. C'est un roman qui ne se prend pas au sérieux, qui m'a fait penser au vieil homme qui ne voulait pas fêter son anniversaire de Jonas Jonasson. Et pour les autres, laissez-vous entraîner par une belle écriture, vive et parfaitement maîtrisée, qui va à l'essentiel et ne s'embarrasse pas du superflu. C'est intéressant, drôle et terriblement distrayant.
Le rendez-vous culture des bibliothèques de Compiègne.
Merci Anne pour le partage de ce roman. Et on va maintenant reparler en fait d'un livre qui s'appelle Blackwater et dont j'avais déjà parlé au printemps. Et alors pourquoi je veux en reparler ? Parce qu'au printemps, j'avais lu que le premier volume et j'avais bien aimé le premier volume, mais je n'avais pas tellement prévu ce qui m'arriverait. C'est-à-dire qu'à un moment du printemps, j'étais en week-end et j'avais lu le deuxième tome de Blackwater et en fait, j'ai passé un certain temps à courir les librairies, à courir les gares pour essayer de trouver le troisième tome, puis le quatrième, puis le cinquième, puis le sixième, tellement j'en pouvais plus de savoir la suite. Et c'est assez rare qu'un livre me fasse ça, en tout cas là en l'occurrence une série de livres, et du coup j'avais envie de revenir dessus. La deuxième raison pour laquelle j'avais envie de revenir dessus, c'est que j'en ai beaucoup parlé avec des collègues bibliothécaires de partout en France pendant l'été, et le grand débat c'était, mais est-ce que c'est un roman de plage ou pas ? Alors, je redis l'histoire, ça se passe en Alabama, et pendant une crue, en 1919, il y a deux hommes qui sont en barque et qui font un peu le tour du village, et ils trouvent au premier étage de l'hôtel du village une femme qui semble être là depuis le début de la crue, c'est-à-dire 4-5 jours. On se demande, elle est restée là sans manger ni boire. Bon, ils la ramènent chez eux, elle va s'intégrer rapidement à la petite communauté, et puis on comprend rapidement qu'elle a un lien avec la crue. Que sa présence n'est pas complètement fortuite et qu'elle a un lien particulier avec la rivière. Elle s'appelle Elinor et pendant les 6 volumes, il va se passer des choses dans cette famille, plus ou moins normales, plus ou moins attendues, en général inattendues et en tout cas suffisamment prenantes pour que je manque de rater des trains pour savoir la suite. Et du coup, je me suis posé la question, est-ce qu'un roman comme ça, c'est un roman trop facile ? Vous savez, Michael McDowell, l'auteur, il disait, voilà, moi je suis un auteur, j'assume d'être un auteur commercial et je fais des livres qui sont faits pour se vendre et qui sont faits pour plaire. Et en même temps, j'ai du mal à me dire que c'est juste ça, parce que des romans faciles, j'en ai déjà lu. Et je trouve que Blackwater, c'est un peu injuste de dire ça de lui, parce que c'est quand même aussi un roman très intelligent. C'est une saga familiale, mais avec une mythologie propre, des personnages qui se démarquent de génération en génération, qui ne ressemblent pas aux personnages d'autres romans, qui ont un lien justement à leurs ancêtres, ou à leur mère, ou à leur belle-mère, souvent en fait à la personne qui les éduque, puisque dans Blackwater, c'est souvent pas les parents qui éduquent les enfants. Les familles s'échangent plus ou moins les enfants, et j'ai trouvé que c'était quand même un univers très spécial, très intéressant, très bien tourné. Et je voulais avoir un autre avis, qui est celui de ma collègue Anne, qui n'avait pas lu Blackwater au printemps, mais qui l'a lu depuis.
Et justement, je l'ai lu sur la plage. Et ça allait très bien, le format du livre est parfait pour ça. Et j'ai été fascinée. Et c'est d'autant plus surprenant. Mon fils de 16 ans l'a lu aussi et il a adoré. Et on en discutait, on se disait, mais finalement, il ne se passe pas grand-chose. Mais on adore, on est quand même complètement captivé et happé par cette intrigue. Il y a juste ce qu'il faut de surnaturel, d'étrangeté, il y a même un peu d'horrifique. Et c'est savamment distillé, c'est toujours subtil. Et il n'y a rien de redondant, en fait. Tout est fluide, comme l'eau, en fait. L'eau, c'est vraiment un élément majeur dans cette saga. Et ce qui est troublant aussi, en fait oui c'est troublant, mais ce qui est vraiment troublant, c'est qu'il n'y a aucun des personnages qui n'est attachant en soi, mais en même temps on s'intéresse beaucoup à eux, et surtout la sibylline Elinor, avec son lien étrange avec la rivière Perdido. C'est une lecture que je conseillerais en fait à tout le monde, ceux qui aiment même ceux qui aiment le romanesque, tout simplement, parce que c'est une saga épique sur plus de 50 ans. Ça se passe entre 1919 et 1970, et ça se lit facilement, et en même temps c'est pas d'une écriture facile, c'est beau, c'est bien écrit, c'est simple, voilà, ça coule, c'est fluide.
Effectivement, j'y avais pas pensé, Anne, mais c'est vrai que c'est un roman fluide comme la rivière. Et alors je le redis, mais c'est aussi un bel objet qui est très agréable à tenir en main, parce que donc c'est les éditions, pardon, Monsieur Toussaint Louverture, qui ont créé cet objet, qui est une réédition en fait. Le livre date de 1983, mais il n'avait jamais été traduit et publié en français. Et du coup, ils ont décidé de le publier sous la forme d'un très bel objet, avec des illustrations de couverture conçues par Pedro Oyarbide, qui est un grand artiste espagnol. Et vu le succès du roman, les éditions Monsieur Toussaint Louverture ont promis qu'ils feraient paraître d'autres traductions des romans de Michael McDowell. Donc, personnellement, je n'attends que ça.
Nous aussi.
Et vous allez maintenant nous parler de Trois fois rien ?
Oui, c'est un film de Nadège Loiseau que pas grand monde connaît, donc je voulais en parler pour le faire connaître, surtout qu'on vient de le recevoir en DVD à la bibliothèque. Alors, Trois fois rien, il se nomme Brindille, Casquette et La Flèche. Ce sont les trois personnages, ils se sont rencontrés dans les bains publics, et ils vivent comme ils peuvent, au jour le jour, dans le bois de Vincennes. Mais leur situation précaire est en passe de changer du tout au tout le jour où ils gagnent au loto. Mais pourtant, ce qui devait être le plus beau jour de leur vie vire au cauchemar. À mesure qu'ils comprennent les multiples démarches à entreprendre pour pouvoir profiter de cette manne tombée du ciel. Car pour percevoir leurs gains, ils ont besoin d'un compte en banque. Et pour avoir un compte en banque, il faut une pièce d'identité, il faut un justificatif de domicile. Et pour avoir une adresse, il leur faudrait une carte d'identité et plein d'autres documents qu'ils n'ont pas. Ainsi, ce trio de SDF se retrouve avec un gros chèque dont il ne sait que faire. C'est un parcours du combattant qui commence pour pouvoir encaisser le chèque, et une situation ubuesque qui égratigne avec dérision l'administration française. Et elle fait le constat d'une société incapable de rendre la dignité à des personnes désocialisées. Il faut une sacrée énergie pour retrouver la voie de l'insertion. Et Trois fois rien décrit remarquablement la facilité avec laquelle on peut tomber dans la précarité et inversement l'extrême difficulté à remonter la pente. Et si Nadège Loiseau dépeint avec gravité et sensibilité ce monde de la précarité, c'est pourtant par le registre de la comédie qu'elle choisit de raconter ses tragédies personnelles. On rit beaucoup. Le ton est volontairement décalé, même parfois burlesque. Bon, on rit jaune avec des situations comiques autour de la vie singulière de ces SDF. Notamment quand il plaisante du manque d'intimité des murs en toile de la tente Quetcha, Et cette épopée sociale est un hommage à tous ces invisibles, si humains et touchants, grâce à la subtilité de l'écriture et au talent des trois interprètes, toujours crédibles et émouvants. On est balancé entre le rire et l'émotion. Et c'est intéressant dans ce que ce film dit d'un point de vue sociétal, et aussi savoureux grâce à son humilité et sa sincérité. S'il était risqué de choisir des personnes sans abri comme héros d'une comédie, il ne fallait pas que le film ait l'air de se moquer d'eux, ou soit condescendant ou méprisant. Et ce n'est pas le cas. Trois fois rien est délicat dans son regard et joyeusement enlevé dans sa mise en scène. C'est plein de charme. Et enfin, derrière la comédie a priori légère et potache, le cinéaste érige la solidarité et l'entraide en vertu essentielle et salutaire. Ce film dégage un vent de fraternité qui fait du bien. Voilà, il est temps de conclure cette émission. Ce soir, à 20h15, le film d'Hitchcock est projeté à la bibliothèque Fenêtre sur cour, dans la salle Michel Le Châtelier. Elle sera animée par Didier Clatou. Nous vous proposerons une émission spéciale série sur Graphite le vendredi 21 octobre à partir de 18h. Et le prochain rendez-vous culture dans le cloître sera le 18 novembre à 18h, où nous vous attendons nombreux pour partager vos coups de cœur et vos retours sur vos lectures, les films que vous avez vus ou les musiques que vous avez écoutées ou les concerts ou expos. Et le prochain rendez-vous culture à la radio sera le 25 novembre. Je remercie vivement Aurore pour la réalisation et Antoine et Amy pour m'avoir accompagnée et Lionel pour sa venue, première venue qui j'espère ne sera pas la dernière. À très bientôt.